19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Trois siècles en 30 minutes pour traiter un sujet des plus complexes, cela tient de la gageure. Car ce soir, le magazine d'archéologie de France Culture se penche sur le déclin d'une civilisation, son agonie, son effondrement, le fameux collapse, en un mot, la fin de la civilisation, la fin d'un monde. Bien entendu, nous aurions pu prendre l'Empire Maya ou Inca, la civilisation de l'Indus ou celle d'Akkad. Nous leur préférons Rome, Rome, sa ville, son empire, avec Claire Sautinel. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur d'histoire romaine à l'Université Paris-Est-Créteil, spécialiste de l'Antiquité tardive. Vous dirigez le Centre de recherche en histoire européenne comparée. Vous venez surtout de publier une somme, 688 pages, pour une Rome, la fin d'un empire, paru dans l'excellente collection Mondes Anciens aux éditions Belin. Claire Sautinel, Rome, cité universelle qui se confond avec son empire, est un œcumène. Elle est aussi, par excellence, le monde civilisé.
Rome, en 212, au point de départ du livre, est vraiment un empire, un espace politique unifié, fruit de la conquête initiée par la cité de Rome, cité qui a su intégrer des territoires immenses, hein, près de 5 millions de kilomètres carrés forment l'Empire romain au début de la période. Et c'est aussi un espace qui est juridiquement et culturellement profondément structuré, avec des tas de variations régionales. Et oui, les Romains continuent de se penser comme étant le centre de la civilisation, les seuls civilisés. Avec 80 millions d'habitants, ils peuvent effectivement le penser.
L'Empire romain, à cette époque-là, c'est quoi? C'est de l'Angleterre, ce qu'on appelle la Bretagne, jusqu'à la Mésopotamie?
Du nord au sud, c'est du nord de la Bretagne, hein, le mur d'Antonin, ne laissant au-delà que quelques Scots, hein, les futurs Écossais. Au sud, les déserts subsahariens, l'Éthiopie pour l'Égypte, et d'ouest en est, c'est de l'Atlantique jusqu'à la Mésopotamie.
Seuls les Parthes en Orient sont réellement le contrepoids face à cette Rome et son empire, et encore?
Au début du IIIe siècle, les Parthes ne sont pas un contrepoids. Les Parthes sont un état que les Romains reconnaissent comme un état organisé avec des lois, mais qui est, depuis la fin du IIe siècle, dans une situation d'infériorité très marquée avec Rome. L'empereur Caracalla a envisagé d'épouser la fille du roi des Parthes pour unifier les deux empires. Ça n'a pas très bien marché, mais les Parthes ne font pas contrepoids. Le contrepoids, il apparaît justement au IIIe siècle, et une des caractéristiques de cette période, qui est autre chose qu'une longue période d'effondrement et qu'on appelle souvent l'Antiquité tardive, c'est l'apparition d'autres acteurs de la vie politique mondiale vue de la Méditerranée que l'Empire romain lui-même.
Nous voici au cœur de l'Antiquité tardive, ce que d'autres dénomment le bas-empire. Un bas-empire qui appelle déjà un état dégénéré de cet Empire romain.
Alors le terme de bas-empire, il a longtemps été considéré sans doute comme neutre par ceux qui l'ont utilisé au début du XIXe siècle, aussi neutre que la Basse-Normandie ou le Bas-Rhin, mais c'est un terme qui porte en soi une connotation péjorative. Et pour les historiens spécialistes de la période classique, pour les historiens héritiers des Lumières et héritiers de la Renaissance qui a redécouvert la Grèce classique, la Rome républicaine et augustéenne, il est indubitable que le bas-empire est une forme dégénérée. Mais toute évolution est une forme de dégénérescence, et à moins de considérer que tout ce qui arrive après est dégénéré, on peut aussi considérer l'état romain tardif en soi, et voir à quel point il est sophistiqué, complexe, riche et intéressant.
Le bas-empire romain s'inscrit dans le champ de l'histoire institutionnelle, contrairement à l'Antiquité tardive, qui est plus culturaliste.
Alors il y a un peu de ça. Le bas-empire, ça redevient un peu à la mode parmi des historiens français, mais je fais partie de ceux qui refusent de l'utiliser, qui parleront d'empire tardif, pour désigner ce dont je parle surtout dans le livre, c'est-à-dire l'évolution d'une structure politique. Parler d'antiquité tardive, c'est se mettre à l'écart de l'histoire politique. C'est une idée qui est née au début du 19e siècle en Allemagne, mais qui s'est surtout développée en France et aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, ou dans la deuxième moitié du 20e siècle, qui consiste à prendre en considération davantage la culture, les formes de vie, les formes sociales, dans des chronologies qui ne sont plus tout à fait celles de l'histoire politique. Et de fait, à parler d'antiquité tardive en France, ce que faisait Henri-René Marroux, c'est vouloir sortir du jugement de valeur et donc mettre en valeur les éléments positifs. Alors aujourd'hui, il y a un peu une micro-querelle entre historiens où les gens qui parlent d'antiquité tardive sont accusés par certains de faire du relativisme culturel et de nier la différence entre les magnifiques sculptures de la période augustéenne et les horribles mosaïques déformées des villas bretonnes du IVe siècle. Il y a donc un enjeu idéologique derrière.
Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que dès le départ, on voit qu'il y a de l'idéologie pour cette période de l'Antiquité tardive.
Cette période est tout entière une construction idéologique. Je dirais, ce que devrait jamais dire un historien, depuis toujours, depuis qu'on la pense, on a d'abord voulu penser cette période en termes de division entre l'Orient et l'Occident, parce que l'Église romaine avait à faire la preuve qu'elle était la seule héritière légitime du christianisme antique par rapport à l'Église orthodoxe. Puis on a inventé l'idée de civilisation, et donc on a pensé le haut de la civilisation comme la période classique, et donc après il fallait concevoir une descente et un déclin pour arriver aux siècles obscurs du Moyen-Âge. C'est la vision de certains auteurs de la Renaissance et beaucoup des auteurs des Lumières. Et puis après, voilà, on pense toujours la fin de l'Empire en fonction de notre propre société. Parce qu'en Occident, on a toujours tendance à penser que notre société est l'Empire romain d'aujourd'hui. Et on se demande comment tout ça va finir, particulièrement dans les temps que nous vivons en ce moment.
Vous écrivez que ces trois siècles sont aujourd'hui renouvelés par l'histoire culturelle et religieuse, mais aussi par l'archéologie.
Oui, l'archéologie a fait beaucoup pour apprécier de manière différente ces siècles tardifs. Dans ma jeunesse, j'ai encore fouillé avec des collègues qui tapaient comme des sourds sur des murs en disant « si c'est pas solide, c'est pas romain, donc c'est pas intéressant ». Et aujourd'hui, les archéologues, partout en Orient comme en Italie ou en France, j'allais dire en Gaule, prêtent la plus grande attention aux couches superficielles et ont découvert, enfin il y a eu des découvertes considérables sur l'occupation du sol, sur les modes de vie, sur la céramique utilisée, sur les modes de production, sur le commerce dans les périodes tardives. À partir du moment où on regarde ce qu'il y a, et aussi, à partir du moment où on se dégage de l'idée que c'est beau, c'est moche, c'est du tardo-répu, comme on disait.
Tardo-républicain.
Non, tardo-répugnant, pour dire aussi.
Ah oui, bien sûr.
Avec un jeu de mots. Hein, ben, on voit plein de choses. Alors après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, chacun ses goûts. Ça veut pas dire que... Mais ça a existé, ça a occupé des siècles de notre histoire, et c'est drôlement intéressant.
Gersotinal, remontons le fil de l'histoire. Revenons au temps de Caracalla, en l'an 212. Caracalla qui entreprend un geste politique décisif pour Rome.
Un geste politique qui s'est avéré décisif. On n'a aucune idée de ce qu'il avait en tête quand il l'a fait, mais effectivement, en 212, l'empereur Antonin, dont Caracalla était le surnom, a octroyé la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire, faisant passer le monde romain d'un système dans lequel il y avait un centre du pouvoir, Rome et les citoyens romains, et une périphérie de peuples qui avaient autrefois été vaincus et qui étaient dans une condition juridique inférieure, à une entité politique dans laquelle il y a une égalité juridique de base. Alors évidemment, une égalité des citoyens libres et des hommes libres. Il y a toujours des esclaves, les femmes ne sont pas considérées, mais c'est tout de même un changement tout à fait considérable, qui n'est pas une révolution, parce que c'est la sanction d'une évolution. Cette capacité de Rome à intégrer les populations, elle est en œuvre dès la fin de la République, dès les débuts de l'Empire. Rome a toujours su donner la citoyenneté. Mais là, tout le monde l'est, et ça change considérablement les conditions de développement politique de l'Empire.
Ce que fait Caracalla, c'est une sorte de réponse au défi de la diversité des peuples vivant dans l'Empire?
On a plutôt l'impression qu'il le fait parce que la diversité des peuples n'est plus un défi. parce que la diversité des peuples est beaucoup moins visible. Le latin et le grec sont les deux langues officielles de l'Empire pratiquées partout par les élites. Les inscriptions sont partout dans l'Empire. Les villes sont organisées de la même façon. Cette diversité, elle a été largement gommée. Et c'est ça qui permet la citoyenneté universelle, plutôt.
Après des temps de conquête, tous les empereurs n'auront de cesse de maintenir et de renforcer l'unité de l'Empire, donc assurer la sécurité.
Assurer la sécurité et assurer l'unité de l'Empire, ce sont les deux fonctions peut-être les plus essentielles des empereurs romains. C'est presque leur raison d'être. S'ils doivent assurer la sécurité, c'est parce que effectivement, il y a des gens à l'extérieur dont il faut tenir compte. Mais il faut aussi assurer la sécurité à l'intérieur, éviter les révoltes, éviter le brigandage, éviter la piraterie, assurer la paix aux habitants de l'Empire.
Il n'y aura plus de conquête, par exemple?
Si. Non seulement parce que dans les relations avec la Perse, l'Empire romain, à l'occasion, étend son territoire sur sa frontière orientale, mais dans la deuxième moitié du IVe siècle, l'empereur Valentinien, aux alentours des années 365-368, va au-delà du Rhin, attaque au-delà du Rhin chez les Alamans, non seulement reconquiert les champs des Cumates, mais un sénateur de Rome dit même que l'empereur veut créer une nouvelle province d'Alamania en dehors. Il y a une rhétorique, l'empire ne renonce pas à conquérir, hein, même si dans les faits, il ne conquiert pas. La Dacie est perdue sous Aurélien au IIIe siècle, et à la fin de la période étudiée dans le livre, évidemment, Rome ne contrôle même plus les anciennes provinces, ne les administre plus.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Claire Sautinel, pour vous, Rome et l'Antiquité tardive n'auraient rien à envier aux périodes précédentes. L'Antiquité tardive est une période, bien sûr, très complexe, mais aussi très riche.
Oui, c'est une période très riche, très passionnante, documentée par des sources nombreuses, qui a aussi produit des œuvres qui sont restées, des œuvres matérielles comme la basilique du Latran ou Constantinople, hein, ce qui n'est quand même pas rien, mais aussi des œuvres intellectuelles, des œuvres politiques, qui a produit des idées extrêmement importantes. Encore une fois, je veux dire, je prétends pas que le modèle de gouvernement des empereurs du IVe siècle, qui sont des empereurs plus autoritaires, hein, qui sont des empereurs qui ont une administration qu'ils sont censés contrôler entièrement, est un meilleur système que le système de délégation aux cités qui existait au Ier siècle. Mais c'est certainement un système tout aussi complexe, sûrement plus complexe d'ailleurs, et tout aussi intéressant que celui des périodes précédentes. Et je pense que l'historien ne gagne rien à mettre des notes et à chercher à donner des bons points ou des mauvais points à telle ou telle période de l'histoire.
Alors évoquons les productions intellectuelles de ces siècles. Il nous faut citer les incontournables Ammien, Marcellin pour l'historiographie et surtout Saint-Augustin pour la littérature chrétienne.
Alors pour l'historiographie, on a effectivement le dernier grand historien écrivant en latin de l'Antiquité, Ammien Marcellin, qui est en fait un oriental, qui maîtrise le latin parce que c'est un soldat, il a combattu dans l'armée de Constance et de Julien, et il a entrepris sous le règne de Théodose vers 304, ou après, juste après sa mort, entre 390 et 395, d'écrire une immense histoire de Rome qui est un des plus beaux textes historiques latins que l'on ait, un des plus riches et un des plus complexes. Mais c'est un peu le dernier. Après, on pratique des formes intellectuelles différentes qui nous parlent beaucoup aujourd'hui. L'Antiquité tardive, c'est une période où pour la production intellectuelle, on adore les résumés. Ce sont des synthèses, des listes éventuellement. Et pour les historiens, on a surtout, après Ammien Marcellin, des chroniqueurs qui, année par année, énoncent les événements, mais qui ne font plus de grands récits très riches. Pour la littérature chrétienne, évidemment, Augustin est un auteur génial à n'importe quelle échelle, mais on a aussi une quantité extraordinaire d'auteurs passionnants, Ambroise de Milan, Jean Chrysostome, Grégoire de Nazianze. C'est pas pour faire du name dropping, mais on a des genres littéraires nouveaux qui sont créés et des œuvres qui encore aujourd'hui se lisent extrêmement bien. Et effectivement, d'ailleurs, c'est en lien avec une des évolutions majeures de la période, qui est le développement du christianisme.
Justement, incontournable est le christianisme religion minoritaire, persécutée, qui deviendra ensuite la religion publique et non pas la religion d'État. À ne pas confondre.
À ne pas confondre. Oui, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire qui se passe dans ces trois siècles. On n'a pas vraiment d'idée des chiffres, mais la plupart des historiens s'accordent à penser qu'au début du troisième siècle, on a peut-être 5% de la population qui est concernée par le christianisme, ce qui ne veut pas dire grand-chose parce que c'est très inégal selon les régions dans l'Empire, mais c'est une religion minoritaire qui n'est pas reconnue comme une religion par l'État romain et qui donc est persécutée comme une sorte de déviance irrégulière localement. Au milieu du IIIe siècle, il y a des grandes persécutions qui sont déjà un changement considérable parce que c'est la première fois que les empereurs romains adoptent des mesures religieuse à l'échelle de tout l'Empire et en imposant des choses, en l'occurrence des sacrifices aux dieux de Rome et à l'empereur. Et puis, on a la conversion de Constantin qui adopte le christianisme comme religion tutélaire de sa dynastie. On a Théodose qui l'adopte comme religion publique et ça accompagne une diffusion du christianisme très grande, mais aussi des transformations très profondes du christianisme.
Classe Sentinelle, le grand sujet, c'est bien entendu Rome et les barbares. Disons-le tout de suite, Rome a une grande habitude des barbares. Elle les côtoie depuis longtemps, les civilise. Pensons bien sûr aux Gaulois et aux Ibères.
Oui, bien sûr, Rome a toujours eu affaire aux barbares, mais pendant toute une période, Rome conquiert les barbares et les barbares deviennent des provinciaux, puis des citoyens romains. Lorsque l'Empire se stabilise au IIe siècle, les barbares sont ceux qui restent en dehors de l'Empire, mais qui peuvent être occasionnellement en contact avec Rome, soit comme soldats, soit comme esclaves, mais très souvent comme soldats, soit comme acheteurs de marchandises romaines ou marchands qui vendent des choses à Rome. Et les relations entre les barbares et Rome sont tellement denses et tellement importantes que dès la fin du IIe siècle, mais c'est encore plus net au IIIe siècle, ces peuples qui sont à l'extérieur des frontières, eh bien, ils développent des structures politiques plus complexes et ils font pression sur Rome pour bénéficier des richesses de l'Empire et de la protection que peut accorder l'Empire.
Cette pression barbare, entre guillemets, va devenir de plus en plus forte, non pas d'ailleurs par les barbares qui sont juste, on dirait, circum-empire, en fauteur de l'Empire, mais par d'autres venus encore un peu plus loin.
Oui, parce que les barbares autour de l'Empire changent et deviennent des interlocuteurs que l'Empire méprise, mais dont il tient compte, et des interlocuteurs exigeants. Les guerres contre les Alamans, c'est pas le fruit de déplacements de population au début du IIIe siècle. Mais très loin en Asie, on a cette migration des Huns et on a de nouveaux acteurs qui apparaissent aux frontières de l'Empire. Vers 250, les Goths, qui justement, n'ayant pas été en contact avec Rome, sont des ennemis aussi menaçants que l'étaient les Celtes au début de l'histoire de Rome ou dans la Grèce antique, et vis-à-vis desquels il faut que Rome mobilise des forces différentes. Au Ve siècle, ce sont les Huns qui, avant d'attaquer directement l'Empire, sème une telle perturbation dans les peuples établis au-delà de l'Empire que ça a des conséquences directes sur Rome. Et c'est au IIIe siècle que naît ce mot de « barbaricum » pour désigner ces espaces au-delà des frontières peuplés par des peuples barbares.
Alors il faut bien une fin canonique, on va dire, pour Rome. Et cette fin canonique est datée du 4 septembre 476. Ce n'est quand même pas la fin.
Non, c'est pas la fin, c'est un événement politique non négligeable. C'est la déposition du dernier empereur romain qui a été intronisé, si je peux m'exprimer ainsi, par le Sénat de Rome et par l'armée. Romulus Augustule, quelle merveille, Romulus comme le fondateur de Rome et Augustule comme un petit Auguste. Augustule est un surnom parce que c'est un enfant. Cet empereur qui n'aura régné que quelques semaines, il est le dernier d'une série d'empereurs qui se succèdent entre la mort de Valentinien III et 476, qui n'arrive plus à définir la fonction impériale, qui tente des choses mais qui échoue. Et en 476, le chef des armées impériales en Italie, qui était d'origine barbare lui-même, Odoacre, est missionné par ses troupes pour prendre le pouvoir afin de les payer, tout simplement parce que les troupes ne sont plus payées. Et le Sénat de Rome décide de renvoyer les insignes impériaux à Constantinople, non pas en disant « nous ne sommes plus dans l'Empire romain », Odoacre n'a jamais été le roi des Romains, mais en disant « nous n'avons qu'un seul empereur, celui qui est à Constantinople, ça nous suffit ».
Rome a désormais un roi germanique à sa tête, Odoacre, mais curieusement, tout le monde pense encore à l'Empire, un empire qui ne serait pas tout à fait mort.
Parce que Rome n'a pas Odoacre à sa tête. Rome a l'empereur de Constantinople à sa tête. C'est pour ça que les gens ne s'aperçoivent pas de la différence. Et la grande différence, c'est que cette Rome qui a l'empereur de Constantinople à sa tête, elle n'est plus source de pouvoir. Elle ne se gouverne même plus elle-même, puisque c'est Ravenne qui est le siège d'Odoacre, mais elle ne cherche plus du tout à administrer les provinces, ni celles tenues par des peuples barbares comme les Vandales, ni celles déléguées à des soldats fédérés romains comme les Visigoths, ni celles sur lesquelles Rome a perdu tout contrôle, comme l'Armorique ou la Bretagne.
Le grand tournant s'opère avec Théodoric. Nous voici non plus dans un empire, mais un royaume.
Avec Théodoric, oui, effectivement, lui est roi des Romains et des Goths. Et Théodoric redresse l'Italie de manière remarquable. Il s'intéresse, comme déjà le faisait Odoacre, il ne cherche à administrer que l'Italie et les régions avoisinantes, et la Dalmatie, qu'il ne faut pas oublier, et le Norique également, mais ce sont des espaces beaucoup plus réduits. Et là, avec Théodoric, il y a un renoncement politique à l'Empire. Alors c'est un renoncement dont on s'aperçoit en Occident, mais mal en Orient. Et quand Justinien voudra revendiquer l'autorité directe sur l'Italie, eh bien ce sera une guerre meurtrière. Mais là, c'est au VIe siècle que la dépopulation massive, les massacres et la peste de Justinien et d'autres facteurs créent une rupture civilisationnelle et pas seulement une rupture politique.
Claire Sautinel, revenons à ce passionnant sujet qu'est la décadence. Les Romains de l'Antiquité tardive ont-ils pensé et perçu leur époque comme décadente ?
Les Romains ont toujours perçu leur époque comme décadente. Depuis qu'on a de la littérature romaine, depuis la période médio-républicaine jusqu'à l'Antiquité tardive, on a toujours des auteurs romains qui expliquent qu'ils sont en pleine décadence et que tout va très mal et que tout allait beaucoup mieux avant.
Il faut se rappeler Caton l'Ancien, par exemple.
On peut se souvenir de Caton l'Ancien, mais si on lit Tacite, on a les mêmes propos pessimistes. Et la littérature latine a toujours cette vision, entre autres parce qu'elle est moralisante, et donc elle a la vision d'un passé plus vertueux et plus glorieux. On trouve dans la littérature tardive des propos sur la décadence de l'Empire, sur la fragilité de l'Empire. On trouve des propos apocalyptiques parce que le christianisme, quand il se développe aussi avec l'idée que la fin des temps est un horizon qui se confond un petit peu avec l'histoire.
Et l'idée du vieillissement est aussi très importante.
L'idée du vieillissement
du monde et des institutions.
Vieillissement des institutions et vieillissement du monde, les deux. Les Romains ont conscience d'avoir un passé long et ont conscience aussi d'avoir du mal à être à la hauteur de ce passé. Mais on trouve aussi des textes plus optimistes ou plus indifférents à ces questions de décadence.
Depuis le XVIIIe siècle, historiens et philosophes cherchent les causes de cette chute. Voltaire, par exemple, y voit les maux du christianisme et des barbares.
Oui, Voltaire transfère sur l'Empire romain ce qui lui paraît le plus négatif dans sa vision du monde.
Et Edward Gibbon, lui, est très important parce que ce sera un véritable succès.
Alors, Edward Gibbon est important parce que c'est un passeur, c'est un formidable passeur. Il utilise tous les travaux d'érudition réalisés par les savants jansénistes et bollandistes qui ont débrouillé les sources innombrables découvertes depuis la Renaissance. Il s'inscrit dans le discours des philosophes de Montesquieu, de Voltaire, et il propose un récit extrêmement développé, extrêmement ample, qui s'appelle « Le déclin et la chute de l'Empire romain », qui commence avec les Antonins et qui se termine avec la chute de Constantinople. Donc là, c'est plus une chute de 3 siècles, c'est une chute de plus de 1000 ans. Et il voit des causes qui sont aussi exactement le reflet de sa conception d'une société idéale, déclin des élites, perversion des mœurs, barbares.
Tyrannie. Tyrannie des empereurs.
Tyrannie des empereurs.
Et mœurs dissolues.
Mœurs dissolues des élites, qui l'intéressent beaucoup plus que les mœurs dissolues du peuple auquel il ne s'intéresse absolument pas.
La perte de courage des Romains, en un mot, l'affaiblissement moral.
Exactement.
En 1897, un autre historien, Otto Zeck, lui prône quelque chose de très différent, une sorte de darwinisme à l'envers.
Oui, Otto Zeck a une vision racialisante de la chute de l'Empire romain en considérant que la mixité des populations, alors c'est pas du tout les invasions barbares pour lui, c'est l'influence orientale sur les vertueux romains, ont amené une dégénérescence de la race qui est la cause même, à ses yeux, de la chute de l'Empire romain. Alors, par ailleurs, c'est aussi un grand historien qui sait beaucoup de choses, mais son analyse est inspirée par une vision un peu dévoyée du darwinisme.
Il faudra attendre donc Max Weber pour avoir enfin une approche économique et sociale. Bien d'autres causes sont évoquées jusqu'à très récemment. Par exemple, l'effondrement de Rome serait dû au plomb ou à des changements climatiques. En 2019, l'américain Harper évoque des pandémies dont la fameuse peste bubonique de 541. On cherche des causes partout.
On cherche des causes partout et à mon avis, c'est un peu ça l'erreur. Ces événements comme justement la peste de Justinien ou le refroidissement climatique, la période brumeuse, fraîche et peu propice aux cultures que Harper expose dans son livre. Ce sont des événements qui sont tardifs, qui sont bien postérieurs à la fin politique de l'Empire romain pour l'Occident et qui n'empêchent absolument pas l'Empire byzantin de continuer d'exister. Donc, il n'y a même pas une parfaite concomitance de temps des événements et il n'y a pas de relation de cause à effet. Mais en réalité, tous ces travaux sur les causes de la chute de l'Empire romain. Ce ne sont pas vraiment des travaux d'historiens, ce sont des travaux de moralistes et de politistes qui cherchent à trouver dans l'Empire romain une sorte de miroir idéal qui leur ferait regarder leur propre société.
Claire Sotinel, à l'heure où certains évoquent le grand remplacement, la civilisation romaine n'est pas morte de sa belle mort, elle n'a pas été assassinée, elle s'est recomposée culturellement, socialement, politiquement.
Oui, elle s'est recomposée avec des placements des élites, avec une transformation culturelle très importante, avec l'adoption du christianisme et les transformations du christianisme qui devient une religion remplissant toutes les fonctions des religions traditionnelles. En cela, c'est une transformation. Ce qui ne veut pas dire que c'est une transformation sans douleur, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des guerres et des morts et des moments difficiles, mais il y en a eu aussi dans d'autres périodes. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a à la fois la fin d'un empire et on a une transformation de la civilisation vers une civilisation moins confortable et certainement moins confortable pour les élites en particulier. Alors, il n'y a pas du tout de grand remplacement parce qu'il n'y a pas de migration suffisamment nombreuse pour qu'on puisse parler de remplacement des populations. En revanche, par exemple, on a une militarisation extraordinaire des élites. Et ça, c'est quelque chose de politique, et pas seulement de social, et certainement pas de racial ou de démographique.
Claire Sotinel, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Rome, la fin d'un empire, de Caracalla à Théodoric, paru dans l'excellente collection Mondes Anciens, aux éditions Belin. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Bruno Mourlan, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, nous serons dans l'Essonne, puisque la fameuse bande des Tarterets a désormais 15 000 ans.